董卓安。
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi avec ACGR Ensemble contre le chômage. C'est notre première émission depuis les attentats parisiens qui ont fait 135 morts, 138 je ne sais plus. Nous allons parler un peu des raisons de ces attentats, un petit peu pourquoi les banlieues, les jeunes sont un petit peu en désœuvrance. Et nous allons également parler de précarité, de chômage, évidemment comme d'habitude. Et dans la conférence de presse, évidemment, des quatre collectifs des chômeurs précaires, MNCP, APES, AC, qui s'est déroulé la semaine dernière et dont vous allez entendre un peu de son pour la préparation de la marche de demain, donc demain à 14h30 à Stalingrad, ils vont marcher jusqu'à Plaskichi, comme d'habitude.
La marche des chômeurs.
La marche des chômeurs, c'est ça, voilà.
Annuel,
tout à fait. Merci Ludo pour la précision. Claude. Alors, bien sûr, nous nous associons à la tristesse des familles et des proches des victimes de ces attentats, évidemment. Nous sommes effectivement consternés, même, on peut le dire carrément comme ça, par ce qui se passe. Mais il y a également toute une analyse à faire autour de ça, c'est-à-dire l'état d'urgence qui s'est rallongé jusqu'à 3 mois. Et puis les raisons qui poussent les jeunes aujourd'hui qui n'ont plus d'avenir ou qui se trouvent un peu bloqués dans les banlieues sans service public, etc., qui sont un petit peu qui décrochent du scolaire et qui effectivement, pour certains d'entre eux en tout cas, pas tous, partent faire le jihad en Syrie et ailleurs. Ludo, t'as une petite voilà.
Non, mais bon, évidemment, on est tous, on a tous été frappés de stupeur et ouais. Donc il y a une immense tristesse de voir de. Effectivement des actes barbares pareil et donc en plus bon, on est enfin FPP est à Paris oui. Et donc les animateurs sont majoritairement parisiens et on se sent encore plus touché que d'autres gens et donc c'est tragique bon la seule chose c'est que le discours qui a suivi les attentats est un discours qui était excessivement guerrier
oui.
J'ai trouvé notamment je crois quand le Premier ministre Manuel Valls a parlé de gaz, éventuellement d'attaque au gaz possible, et donc on aurait presque cru entendre un peu George Bush en 2001. J'exagère à peine parce qu'il parle quand même de guerre, de bien contre le mal, bon soit, mais enfin que les terroristes en voulaient à notre mode de vie puisqu'ils avaient ciblé les cafés, tout ça. Et donc effectivement, bon, ça fait un peu frémir parce qu'on a eu le temps de mesurer un peu les conséquences des réactions un peu impulsives après les attentats de 2001. Et je me souviens d'ici d'une émission, on avait parlé de ces 900 000. Pour revenir un peu sur l'autre thématique de notre émission, c'est que évidemment quand une partie de la jeunesse ce sont des Français qui commettent ce genre de choses et je veux dire pas forcément des Français des banlieues, un tiers aujourd'hui des Français qui partent faire le djihad sont des convertis, un tiers sont des femmes, bon. Vous voyez, ça touche un peu pas mal de monde dans notre société. Et juste un chiffre qu'on avait sorti de cette émission, c'est qu'on avait parlé des 900 000 jeunes qui n'étaient plus, alors les décrocheurs, les fameux décrocheurs, qui n'étaient plus en études, mais qui n'étaient pas non plus en formation et qui n'étaient pas non plus en emploi en fait. Hein. Ouais. Donc 900 000 décrocheurs, bon, c'est énorme. Je veux dire, je suis même pas sûr qu'ils soient inscrits à Pôle emploi.
Ah non, ils sont pas inscrits à Pôle emploi. Non,
c'est une grande partie. Je suis pas sûr. Et donc, rien que ce chiffre-là donne une idée de l'état des banlieues et de désespérance.
Et du délabrement des services publics aussi.
Bien sûr, mais en même temps. Alors voilà, certes, mais voilà. Après, Pôle emploi, il peut pas proposer des emplois qu'il a pas non plus. Hein, c'est ça le problème. Et puis, il y a une stigmatisation des quartiers, enfin des origines, hein. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé entendre aussi une autre chose. Bon, on a entendu autre chose, mais enfin autre chose du gouvernement aussi. On aurait aimé entendre parler de ça aussi. Voilà, on a l'impression que c'est pas demain que oui. les attentats s'arrêteront effectivement. Au-delà des problèmes de Daesh et tout ça.
Oui. C'est vrai qu'on a entendu à l'époque de l'Irak Bush dire qu'il y avait effectivement des armes nucléaires cachées qui auraient pu servir contre les États-Unis. Voilà.
Et puis guerre de bien contre le mal, oui, le mode ça. De vie, oui, tout oui, ça, c'est, oui. On a retrouvé des choses quand même oui. qui étaient dans le discours, qui étaient assez proches.
Hein. Oui, complètement. Oui. Voilà.
Or, la France est elle-même très interventionniste depuis quelques années, sous Hollande, justement. Mm-hmm. Hein. Bon, sous Sarkozy aussi, avec la Libye, mais en Libye, au Mali, enfin, tout ça, c'est des choses qu'on a tous entendues, mais de Daesh, et donc le lien, il y a un lien direct, bon. Voilà.
Alors, la question que j'ai envie de poser, comme ça, à brûle pour point, c'est est-ce que la précarité ou la pauvreté est une excuse pour se retourner vers les religions, qu'elles soient effectivement la religion musulmane ou chrétienne ou est-ce que c'est quand on n'a plus rien à perdre, est-ce que la religion est la seule chose qui peut nous sauver? C'est une grande question, parce que effectivement ces jeunes dont tu parlais, ces jeunes des banlieues ou qui décrochent et qui sont ni à l'emploi, ni en formation, ni en stage, etc., qui se retournent vers la religion et qui partent pour peu d'en, finalement, ils sont peu nombreux par rapport à la masse de gens qui sont.
Vrai. Ouais. Oui, c'est vrai.
Peu nombreux à partir dans les pays comme ça pour faire une guerre sainte, on va dire ça comme ça, ou pour voilà. Moi, je trouve. Alors, moi, pour revenir sur ce que tu viens de dire sur la.
Mais
la...
il faut quand même se souvenir qu'il y a un barbu.
Oui, c'est
un
vrai.
Grand barbu ouais. qui a dit. C'était un autre barbu d'ailleurs qui a dit que la religion était l'opium du peuple entre et il a poursuivi sa phrase. Elle était l'âme des sans âme. Donc c'est pas une réponse hein, parce qu'on peut supposer que la religion, je veux dire, dans toutes les religions, il y a une partie révolutionnaire.
Oui, mais la révolution islamique, c'était ça.
C'était ça, voilà. Et tout à fait, c'est même une composante importante hein, de l'islam. Et qui a une, comment dire, qui a aussi une façon de sublimer, en fait. Hein. Il y a aussi une quête de sens à travers ça. Donc, je pense notamment aux gens qui partent en Syrie. Il y a aussi un certain nombre de gens qui partent en Syrie avec un projet humanitaire.
Oui, évidemment.
Qu'on a un peu perdu de vue occasionnellement, nous.
Comme les ONG, par exemple, beaucoup d'ONG.
Non. Des gens qui parlent de faire le djihad dans une optique humanitaire au départ d'aider la Syrie, avant justement de partir faire le djihad. Donc, c'est pas quelque chose que. Enfin, je veux dire, c'est une composante importante dans l'engagement. Hein, je veux dire, qu'il faudrait pas sous-estimer au-delà du ressentiment social que des jeunes de 20 ans peuvent avoir. Vis-à-vis de la société qui les entoure. Donc, comme tu dis, la religion cristallise, mais elle marque aussi une espèce d'encadrement politique, pour le coup, qui a fait complètement défaut dans ces cités depuis 15, 20, 30 ans. Moi, il y a une époque où on me disait que les militants du Parti communiste arpentaient les cités. Aujourd'hui, je sais pas si les militants du Parti communiste continuent à arpenter les cités et s'ils sont en capacité de le faire. Donc, de fait, il y a une place qui est prise par autre chose, effectivement. Alors, bon, ben, certes, ça peut être les mosquées, mais ça pourrait être les églises dans d'autres endroits. Oui, c'est plutôt une... voilà, donc la religion fonctionne comme un substitut. Hein.
Alors moi, je sais pas, parce que l'État islamique, en fait, là-bas, en tout cas, sur place, bon, en dehors du fait que ce sont des barbus un peu... C'est un État policier, on va dire ça comme ça, une dictature, quelque part. C'est-à-dire qu'effectivement, les opposants sont fouettés, les femmes aussi, des fois tuées, etc.
Et les minorités ethniques, les minorités religieuses.
Tout à fait. Mais en même temps, ils font des choses... faut pas tout retirer non plus. Ils font des choses aussi qui sont importantes, genre apporter de l'eau potable dans des régions reculées... de ce que j'ai pu comprendre, entendre aussi.
Non, mais il y a de toute façon.
Ils font des choses quand même pour leur peuple. Alors, je sais pas, peut-être la minorité de leur peuple, hein. C'est fort possible, mais.
J'ai pas d'informations sur la question, donc je vais pas me risquer, mais il y a de toute façon une composante égalitaire. Et, je veux dire, dans l'islam comme dans le christianisme, et c'était toute l'histoire du christianisme de prétendre à chaque fois se régénérer d'un point de vue égalitaire. Hein. Faut se souvenir des ordres mendiants au Moyen Âge, et c'est pareil pour l'islam. Après, évidemment que c'est une idéologie moyenâgeuse, oui, non mais bon, moyenâgeuse, ségrégationniste vis-à-vis des femmes, et puis qu'il y a des pratiques mafieuses, ça c'est personne n'en doute, mais il est vrai que il semblerait que les sunnites et en tout cas acceptent mieux l'État islamiste, la tutelle de l'État islamiste aussi barbare soit-elle que
les chiites,
la tutelle des chiites d'Irak par exemple, les chiites en Irak. Voilà, donc j'ai pas de j'ai pas plus de
alors moi j'aurais aimé pour finir sur ce sujet quand même dire deux mots sur l'état d'urgence parce que effectivement le discours guerrier de nos élites ça a amené un état d'urgence en France donc qui était d'abord de 15 jours je crois qui était maintenant poussé à 3 mois. Et ça aussi, ça implique également des dérapages policiers en nombre important, faut le savoir. Par exemple, au lieu de frapper à une porte et d'ouvrir la porte normalement avec la cliche, certains policiers, en tout cas pas tous, je l'espère fort bien, mais certains policiers défoncent la porte avant même d'essayer de l'ouvrir, quoi. C'est un peu...
Oui, c'est le principe de l'état d'urgence.
Tout à fait. Non, mais j'entends bien. Donc là, je m'étonne un peu, d'autant que, je sais pas si vous avez pu voir cette vidéo qui est tournée un peu sur YouTube ou sur un peu partout, sur effectivement le samedi, là, il y a eu la chaîne humaine à République, et ils ont arrêté tout le monde, et tout le monde a été en garde à vue, 325 personnes en garde à vue pendant 48 heures. Et donc on disait effectivement, oui, c'est eux qui ont commencé à envoyer des pavés sur les policiers. Et quand on regarde, alors peut-être qu'évidemment, c'est vrai qu'on peut faire dire n'importe quoi à une vidéo, hein, c'est évident. Mais en tout cas, dans la vidéo telle que je l'ai vue, moi, il n'y a pas un moment, effectivement, un manifestant qui agresse un policier, c'est l'inverse. C'est le policier qui agresse le manifestant. Mais bon, ça c'est... Voilà. Donc je m'étonne un petit peu de... Effectivement, l'état d'urgence, pourquoi pas. Il faut, mais en même temps, il y a un peu de privation de liberté, un petit peu, il y a plus de contraintes dans tout ça, et ça me pèse un petit peu, quoi.
Bah, il y a quand même une chose, on en parlera tout à l'heure hein, sur l'état d'urgence, c'est qu'effectivement, finalement, la manifestation pour le des chômeurs a été autorisée, mais il était pas sûr qu'elle le soit. Et je crois que les manifestations de la COP21, elles, ne l'ont pas été. Et on en reparlera évidemment sur FPP avec la semaine hein, de la COP21 qui est donc c'est la semaine prochaine. Ça commence dès lundi à 20h. Évidemment, et on va commencer d'ailleurs sur ce sujet. D'ailleurs, 18h, pardon, excusez-moi, ça commence à 18h. Et donc je ne vais pas anticiper, mais il y a aussi des militants verts. Il était de toute façon les contre-manifestations de la COP21 étaient de toute façon sous surveillance. Il n'était pas certain qu'on allait les autoriser. Et il y a même des militants verts qui ont été assignés à résidence. Mais il y a quand même, on peut se tenir du deux poids deux mesures. C'est-à-dire que on autorise les matchs de foot, on autorise les villages de Noël, donc des manifestations à tendance commerciale. Par contre, tout ce qui est militantisme contestataire. Là, c'est un peu plus donc la COP, les manifestations type COP21 ou de contre la COP21 plutôt, et éventuellement, effectivement, voir des manifestations syndicales. Bon, ça reste à voir et ça reste à voir comment vont évoluer les choses. Mais pour le moment, il y a effectivement, il y a un risque quand même certain et ça avait commencé avant.
Donc la marche des chômeurs, c'est donc demain samedi à 14h30 à Stalingrad pour une petite marche jusqu'à Place Clichy. Il y a eu une conférence de presse jeudi 26 tenue par effectivement les quatre collectifs des chômeurs et précaires.
Alors c'était comme la manifestation, les quatre organisations qui ont présidé à la conférence de presse, pas présidé pas vraiment, donc qui tenaient la conférence de presse, c'était évidemment AC, MNCP, la PES et CGT chômeurs, réunis dans un bel élan d'unanimité pour faire une manifestation. La manifestation annuelle des chômeurs, je crois bien que c'est la 13e de mémoire. Alors, l'intérêt de cette manif...
On rappelle un peu l'histoire des marches, la marche des chômeurs
alors,
quand même.
Mais ça date quand même, de 95.
Oui, c'est vrai. Non, mais les gens qui viennent d'écouter l'émission, peut-être, ils savent pas tous.
La marche des chômeurs, c'est un acte fondateur d'AC et c'est effectivement dans l'idée de de renouer avec des pratiques qui avaient lieu au 19e siècle et à une époque où effectivement il n'y avait pas ni internet ni la télé et où en fait les militants avaient pris cette pratique enfin cette habitude d'entamer des marches des tours de France pour aller à la rencontre des gens et pour informer les gens de leur combat c'est-à-dire pour dans les régions les plus reculées Donc voilà, il y a des marchés libres comme ça. Et donc effectivement, l'idée c'était pour reprendre un peu ce qu'avait fait la marche des beurs quand même en 83,
tout ça. Ouais.
Mais il y en a eu plusieurs en fait des marches des beurs. Ouais. Et donc il y avait quand même marqué les esprits, parce que je crois que la marche des beurs, ils sont partis à 4-5 hein. Progressivement,
oui,
ils sont un peu étoffés
et
ça a eu le succès qu'on connaît quoi. Donc cette idée, c'était effectivement à la fois de marquer les esprits par cette marche, donc sur un plan médiatique, puis aussi symbolique, et c'était aussi d'aller effectivement à la rencontre des gens dans les villes et d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce qu'on appelait à l'époque le quart monde, c'est-à-dire la nouvelle misère en France hein, qu'on n'avait pas connue depuis un petit moment à une époque de pic historique du chômage, puisqu'à l'époque le chômage était à 12%, alors quand on dit 12% c'était 12% de la population active. Voilà. D'accord. Et donc la population active à l'époque était moins importante qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a un taux de chômage qui est un peu plus bas, entre autres, aujourd'hui. Voilà, et donc la marche, donc effectivement, en commémoration, en quelque sorte, on fait cette manif annuelle. Et au départ, c'était aussi pour la prime de Noël pour les chômeurs. Donc prime de Noël qui sera versée. On en parlera plus tard. Voilà. Et la conférence de presse s'est tenue dans un contexte où on n'était pas sûr, dans un contexte où on n'était pas sûr qu'elle soit autorisée et où on attendait les chiffres du chômage du mois dernier, qui on était en augmentation. Donc voilà.
D'accord. Merci Ludo. Si on peut, merci pour la technique, relancer le son, oui, merci.
Donc, on vous invitait pour la 13e année consécutive, puisque c'est la 13e manifestation des chômeurs et des privés d'emploi et des précaires le premier samedi de décembre, donc cette année le 5 décembre. Juste pour rappeler un peu d'histoire, que l'origine c'était effectivement sur la prime dite de Noël. Et que notre manifestation est contre le chômage de masse et la précarité.
Le mois dernier, sur les chiffres de chômage, on nous a fait une grosse communication. Oui, les chiffres du chômage ont baissé, etc. Il faut savoir aussi qu'il y a eu pas mal de radiations. Et on parlait que d'une seule catégorie, c'est la catégorie A. On peut chercher un emploi à temps plein, etc. Donc voilà. Et nous, les chiffres du chômage, ok, bon, tous les mois, ça commence à devenir, c'est régulier. Et nous, on dit, derrière les chiffres, il y a des chômeurs, il y a des personnes. Aujourd'hui, il y a un chômeur sur deux qui n'est pas indemnisé. Ça, c'est une vraie catastrophe. Il y a 6 millions de personnes dans ce pays qui ne savent pas comment faire tous les mois. Ils doivent choisir entre soit manger, soit se soigner. Donc ça, c'est important de le dire. Et donc en termes de précarité, concernant les contrats aidés, où il n'y a aucune. Enfin, ces contrats aidés, bien sûr, ça peut être un pied à l'étrier, le souci n'est pas là. C'est après en termes de pérennisation, il n'y en a pas. En termes de formation, c'est la croix et la bannière pour avoir une formation. Les employeurs ont tendance à ne pas la proposer. Donc ça, c'est un véritable problème. Hormis ça, bien sûr, les pôles emploi, aujourd'hui la politique de pôle emploi est un vrai souci. Il faut savoir que les contrôles des chômeurs c'est déjà mis en place. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Il n'y a aucune politique publique aujourd'hui de l'emploi, ou alors elle va toujours en descendant.
Pour revenir un peu à la base de cette manifestation, l'idée, il y a 13 ans, c'était de faire une manif contre le chômage, et pas forcément une manif pour l'emploi, puisqu'on questionne quel emploi, après tout, on propose, et puis surtout, que le chômage est de la variable d'ajustement qui permet de faire peur. On est dans une société, on voit qu'il fonctionne beaucoup sur la peur, qui permet de faire accepter beaucoup de choses, notamment le fait de ne pas forcément pouvoir manifester, même si on peut faire les marchés de Noël. Donc voilà, c'est cette peur du chômage. Nous, ce qu'on attaque directement, c'est la logique. C'est pas forcément les chiffres du chômage, puisque bon, il y a un sketch assez marrant de Coluche des années 80 qui disait « Oh, on va atteindre 3 millions de chômeurs, vous vous rendez compte, ça va être la révolution. » Bon, là, on en est à... Mais voilà, on en est au double. Donc, c'est surtout cette logique du chômage qu'il faut qu'on déconstruise Et surtout, c'est par cette logique qu'il faut comprendre que tous les, tous ceux qui ont un emploi aujourd'hui, qu'ont la chance ou la malchance selon la qualité de l'emploi, d'avoir un emploi, faut qu'ils comprennent que c'est justement, ils sont concernés. C'est pas quand ils vont se retrouver justement licenciés, ce sera pas trop tard, parce que nous, on continue à lutter, donc il n'y a pas de raison. Mais c'est une pression, c'est un moyen de pression. Le chômage actuellement fait partie du système, fait partie de la pérennisation du système et de son autorégulation. Donc c'est cette logique qu'on attaque. C'est aussi pour ça que c'est une manif pour la justice sociale. Il y a l'état d'urgence, il y a des tas d'urgences, et on espère que cette manif aura lieu. Alors déjà, il y a un truc, c'est qu'elle rentre dans le cadre. Oui, elle rentre dans le cadre de l'état d'urgence sociale, en tout cas, parce que nous on pense que la sécurité, c'est pas forcément des flics à chaque porte. C'est la sécurité, c'est savoir que ces mômes ils vont bouffer, qu'ils vont être habillés chaudement l'hiver, qu'on va pas être expulsé de son logement. On va pas avoir les huissiers débarquer dès qu'on attend le facteur, que le facteur va pas ramener que des lettres de relance, qu'on va pouvoir se faire soigner normalement, qu'on va pouvoir partir aussi de temps en temps voir la mer et pas rester dans son quartier enfermé tout le temps 365 jours par an, qu'on va pouvoir aller de temps en temps au cinéma, sortir, s'amuser, que nous aussi on a le droit de picoler en terrasse, que c'est tout ça, la sécurité, c'est déjà se sentir bien. Donc l'état d'urgence, il est un peu tout le temps pour certains.
Oui, moi, pour la CGT, il est clair que d'année en année, le chômage devient la variable d'ajustement du capitalisme. D'autre part, nous, c'est travail, salaire, dignité. C'est quelqu'un jeune, ou quadra, voire quinca, qui est accès à la formation, une formation qualifiante, qui puisse déboucher sur un salaire, sur un emploi choisi par le salarié privé d'emploi, qui débouche sur un salaire qui permet de vivre décemment. C'est ça la revendication de base de la CGT. Après, aujourd'hui, en 2015, on a un service public, je dis bien entre guillemets pour plusieurs raisons, mais je vais rester sur mon idée d'origine. Un service public qui s'appelle Pôle emploi, qui a été mis en place par Sarkozy. On voit bien aujourd'hui, quelques années après, le déficit d'emploi, le déficit de cette politique qui a été menée depuis 2007, qui a été reconduite par François Hollande, puisqu'il nous avait promis il y a deux ans l'inversion de la courbe du chômage. L'inversion de la courbe du chômage, c'est bien pour la communication, et pour les gens qui sont concernés, ça n'amène à rien. On a un service public, donc Pôle emploi, où d'un côté de la barrière, on a un public, donc les privés d'emploi, qui sont en souffrance de ne pas avoir accès à l'emploi, parce que le service public propose, je crois qu'on doit avoisiner les 300 000 offres en ce moment sur le site de Pôle emploi. Et d'un autre côté, on a les salariés de Pôle emploi qui sont en souffrance, parce que trop peu nombreux, parce que ne pouvons pas obligés d'appliquer la politique du gouvernement et du ministère du Travail, et qui ne peut pas satisfaire les besoins d'emploi et donc de survie, quelque part, des gens qui sont en face d'eux, quoi. Donc, d'année en année, on a une augmentation de la paupérisation de la population au travers, quelles que soient les couches concernées, donc il y a les primo-demandeurs d'emploi qui sortent des études, qui ont du mal à accéder à l'emploi. Après, il y a les trentenaires qui sont jetés parce que, pour des raisons financières, on préfère avoir des revenus du capital par la bourse plutôt que de favoriser effectivement le développement dans l'entreprise et investir dans les salariés. Donc, c'est tout un changement de la société qui met effectivement, qui précarise au-delà de notre territoire, l'Europe, et je dirais même un peu plus. Tous ces choix politiques, il faut que les hommes et les femmes qui sont en responsabilité les assument. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est silence radio, vu l'état d'urgence, c'est silence radio sur les revendications des salariés qui sont en poste, y compris sur nos propres revendications. Le gouvernement actuel, comme le précédent, moi j'insiste bien sur les deux choses, on a deux idéologies différentes à l'origine, et en fait on a effectivement, on subit la même politique. ce sont les complices du patronat. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que le patronat, avec le temps de Sarkozy ou aujourd'hui du temps de François Hollande, les gouvernements en place accèdent au désir du patronat sans s'occuper et laissent la population française, la grande majorité, parce que tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit oui, 6 millions de chômeurs. Mais il n'y a pas que 6 millions de chômeurs. 6 millions de chômeurs de 18 ans au bout du bout, parce qu'on repousse les gens qui aujourd'hui sont en endroit à la retraite pour carrière longue, on les emmène jusqu'à 67 ans, sans leur donner de travail. Ça veut dire qu'on les maintient avec 400 euros par mois, puisqu'ils sont en fin de droit, on les maintient avec 450, voire un peu plus, maintenant, parce que ça augmente 20 euros par an. C'est formidable. Ça augmente beaucoup moins vite que le CAC 40. Mais ceci étant, on tient des gens dans la misère jusqu'au bout, du bout, qui accéderaient éventuellement à une retraite paisible. Pour les plus anciens et pour les nouveaux, pour les jeunes qui arrivent sur le marché, ben, y a rien. Le gouvernement accède à tous les caprices du patronat. J'en veux les déclarations aux universités du MEDEF, l'année dernière de Manuel Valls. On aime l'entreprise. Ben oui, on aime l'entreprise. Et nous, on aimerait bien rentrer dans l'entreprise. Seulement, la porte, elle reste close. Donc, au final, on est sur cette ligne-là d'un chômage organisé par les gens qui détiennent dans les entreprises un certain pouvoir. Les politiques qui ont été menées d'aide aux entreprises pour créer de l'emploi, ça rentre dans la trésorerie de l'entreprise, mais on voit bien, et on le sait bien partout en France, quelles que soient les professions, que ça ne crée pas d'emploi. Les plus à même de créer de l'emploi, ce sont les PME, les petites entreprises artisanales qui font, bien entendu, qui ont une autre vue que les gens du MEDEF, et qui créent, tant que faire se peut, de l'emploi dès que c'est possible. Mais il faut avoir de l'activité. Donc on maintient les gens dans cette précarité. L'argent qui est versé aux entreprises, la grande majorité ressort par les poches des actionnaires. Les grands groupes, je pense notamment aux grands groupes qui font des bénéfices, comme c'est le cas de Total ou autre, les licenciements continuent. Dans d'autres filières, l'automobile, on arrive au même constat, et dans beaucoup d'endroits, c'est pareil. Dans le commerce, c'est bien d'en parler du commerce parce qu'on arrive en fin d'année, donc ils vont nous raconter qu'ils ont eu des difficultés, sauf qu'effectivement, on voit bien que dans le commerce, et je pense aux grands magasins notamment, ou au commerce dit de luxe, il y a quand même de l'argent qui circule, il y a des gens qui achètent, c'est pas à Lidl et à Aldi que ça se passe, hein. C'est dans des grandes surfaces comme ça, commerciales, qui sont créées, des grands pôles commerciaux autour de Paris et en province qui sont créés, pour permettre aux gens qui ont des gros moyens de pouvoir effectivement, en oubliant le reste. Et les chômeurs, ils demandent quoi ? Ben, ils demandent simplement d'avoir un travail, ils demandent qui serait une rémunération pour survivre. Parce qu'aujourd'hui, on oppose politiquement les gens qui sont dans l'entreprise avec un certain revenu et puis ceux qui n'ont plus rien. Autrement dit, à partir du moment où il y a un chômage de masse bien organisé par les gens qui détiennent le pouvoir politique et financier, ça ne permet pas à ceux qui sont dans l'entreprise, effectivement, d'augmenter leur salaire. Hein, en disant, voilà, vous voyez, vous voulez une augmentation du SMIC, ou vous gagnez 2000 euros, vous demandez de l'augmentation, mais regardez dans la rue, il y a plein de personnes qui sont en capacité de prendre votre place, et pour moins cher. C'est ça le gros problème qui existe en France et en Europe aujourd'hui. Donc ça justifie pleinement le fait de notre contestation, de nos revendications communes, les trois associations et la CGT, de pouvoir effectivement manifester le 5 décembre. Et nous, en ce qui nous concerne, on maintient à travers vous les médias, à travers la population, par la distribution de tracts et d'affichages en Ile-de-France et je dirais même dans tous les départements où on a nos relais et nos antennes, de pouvoir manifester ce 5 décembre. C'est une manifestation légitime que l'on serait bien heureux de ne pas faire à partir du moment où le chômage n'existerait plus massivement comme il est aujourd'hui.
Amoche, vous les amochez. S'il vous tue, vous vous relevez.
Microclimat. Microclimat.
Du 7 au 12 décembre 2015 sur Fréquence Paris Pluriel.
Conférences, débats, reportages, interviews.
Le climat prend le micro.
Pour suivre les mobilisations autour du climat à Paris et partout ailleurs. Microclimat, une semaine de lutte pour le climat sur FPP 106.3 FM et rfpp.net. Le contre-sommet sur les ondes.
S'il vous amoche, vous les amochez. S'il vous tue, vous vous relevez.
Et oui, la première chanson était une blague pour dire bonne nuit aux petits. En même temps, le marché de Noël reste autorisé alors que les manifestations militantes et syndicales sont interdites. Donc,
sauf la marche des chômeurs.
Sauf la marche des chômeurs, bien sûr.
Il faut y être à 14h30 à Stalingrad. La rotonde.
Voilà. Donc, on reprend cette émission. C'est Mode d'emploi 106.3 FM sur Mode d'emploi sur 106.3 FM, pardon. Voilà. On va parler maintenant peut-être du chômage, bien sûr, parce que c'est notre thème générique, on va dire. Les chiffres, que donnent les chiffres aujourd'hui,
les chiffres ne datent pas d'aujourd'hui. Et les chiffres, c'était juste avant la conférence qu'on vient d'entendre là. Alors, je porte juste une petite précision, c'est que la prime de Noël pour les chômeurs sera versée cette année, a dit Monsieur Valls, c'est gentil de sa part, et elle sera versée donc par les CAF. Et donc évidemment, elle est conditionnée aux ressources. Donc c'était une revendication d'assez il y a longtemps pour les chômeurs, voilà. Puisqu'il y en a qui ont des primes quand on est salarié. Donc autant offrir une prime pour les chômeurs, c'est pas trop leur demander. Je crois que c'est un peu plus de 150 euros par personne pour une personne seule. Il y a un peu plus de 320 euros pour un couple avec deux enfants. Voilà, donc évidemment, il a fait l'annonce à Europe 1. C'est le camarade des patrons. Donc elle sera versée par les caisses d'allocations familiales aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, donc le RSA, et par le Pôle emploi à ceux qui touchent l'allocation spécifique de solidarité, l'ASS, ou l'allocation équivalente en retraite, l'AER. Donc il n'y a pas de démarche à effectuer. Je précise pour ceux qui l'attendent peut-être. Voilà, à moins que votre situation n'ait changé entre-temps, vous recevrez donc la même somme cette année que l'année dernière. Évidemment, elle n'est pas revalorisée. Mais pour en avoir le cœur net, vous pouvez utiliser un simulateur conçu par Metro News. Donc il faut aller sur le site de Metro News et faire le test. Voilà. Et dans le même ordre d'idée, je tenais aussi à indiquer que c'est la dernière année que la prime pour l'emploi existe, puisque elle est supprimée. Vous savez, la prime pour l'emploi, c'est ce qu'on touchait. En fait, c'est ce que les impôts vous rendaient quand vous travailliez en dessous du SMIC, en fait, ou juste au niveau du SMIC. C'était pour compléter vos revenus en fin d'année par une petite ristourne fiscale, c'est un crédit d'impôt. Un truc très pratiqué par les socialistes. Y compris pour les syndicats. Et je voulais juste terminer, c'est qu'en fait, elle va être fusionnée avec le RSA socle. D'accord. Et donc, je pense à titre personnel que c'est pour inciter les gens qui n'arrivent pas au SMIC en fait en travaillant à avoir recours au RSA activité. Là, on sait bien que c'est beaucoup de paperasse, de démarches administratives pour peu d'argent, ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas recours au RSA activité alors qu'ils y ont droit. Mais donc là, ils auront une petite prime supplémentaire en fin d'année. Voilà. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas inscrits au RSA, en quelque sorte.
Merci Ludo. Alors, juste une petite précision encore sur ce que vous avez entendu après la chanson. Donc, c'était le jingle de la COP21, puisque vous savez que tout le monde se réunit à Paris, donc je sais plus combien, il y a 195 chefs d'État, plusieurs milliers de conférenciers, etc., pour parler d'énergie, évidemment, et puis de conférences sur le climat, voilà. Et donc, c'est tout simplement pour vous dire que la semaine prochaine, donc c'est bien la semaine prochaine, on est bien d'accord, du lundi au vendredi, tous les programmes seront transformés dans cette station. Et nous aurons donc le matin les rediffusions classiques des émissions du soir et l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 19h, donc des débats, des interviews de rue sur tout ce qui est l'anti-COP21, l'anti-sommet COP21. Et le soir, chaque soir, vous aurez des plateaux avec des invités qui viendront parler du climat et de l'énergie, etc. Donc chaque soir, ce sera un plateau différent.
Tout ça parce que le programme est disponible sur le site internet.
Exactement.
De voilà. Et donc, on commencera par effectivement l'état d'urgence. Je crois que ça sera à 18h le lundi. Et puis, évidemment, on commencera la série par Bah, un état des lieux, hein, du oui, climat,
oui.
En fait.
Oui, alors, voilà. Je crois que lundi soir, c'est effectivement climat. Le climat. Mardi climat. Soir, c'est...
Capitalisme et écologie.
Voilà, et puis on n'a pas tout le programme, mais en tout
les
cas...
Les réfugiés, pouvez... mais les réfugiés climatiques, mercredi, la transition ouais. écologique, ça sera samedi. Le rapport à la Terre, oui, le nouveau rapport à la Terre cool. du Sud. Voilà, et on conclura dimanche, en fait, hein, par bien. Un bilan voilà, entre cool. animateurs de Fréquence Paris Pluriel.
Donc ça sera très riche en événements, donc restez sur les ondes pendant toute la semaine si vous pouvez, pour ceux qui ne travaillent pas, même pour ceux qui travaillent d'ailleurs, hein, si vous avez l'occasion de pouvoir écouter FPP. Voilà, donc on reprend cette émission classique de notre émission sur le chômage, juste pour dire en fait que les chiffres, maintenant on a parlé des chiffres du chômage, on va parler des chiffres de la précarité.
On n'a pas parlé des chiffres du chômage.
Non, j'entends bien, mais on va parler des chiffres de la précarité, merci Ludo. Savoir par exemple que tout ce qui est stage, contrat aidé, CDD, apprentissage, représente quand même 3,2 millions de personnes, soit 14% des actifs, ce qui est quand même énorme. Il faut savoir qu'en 20 ans, entre 1980 et 2000, la précarité a doublé, passant de 5% à 12%, plus que doublé. On est d'accord ? Savoir que dans la même période, entre 1980 et 2000, c'est 50% des jeunes qui étaient précaires. Donc un jeune sur deux était précaire, c'est quand même énorme, énorme. Hein. Aujourd'hui, c'est 50% aussi. Et que c'est passé, donc non, dans cette même période, c'est passé de 17% à 47%, pardon, et c'est 50% aujourd'hui. Hein. Excusez-moi, je m'étais, voilà, faut envoyer.
Les jeunes sont les premiers touchés par la précarité, en fait.
Oui, évidemment, et les femmes aussi.
Et les femmes,
ouais, voilà. Faut savoir aussi que les 40% des précaires vivent dans les villes de plus de 20 000 habitants et 45% dans des communes de plus de 200 000 habitants, donc dans les grandes villes, hein, c'est 45% des précaires. Et 5% qui restent, c'est un peu partout dans les provinces avec des villes de moins de 20 000 habitants. Voilà.
Ce qui n'est pas si étonnant que ça, parce qu'on peut supposer que c'est des grandes villes qui ont justement des structures à la fois d'accueil, d'hébergement, de repas. On parlera avec les Restos du Cœur, mais donc il vaut mieux en fait être précaire, enfin être pauvre et précaire dans une grande ville, même si effectivement les loyers, c'est pas terrible.
Parce que aussi, tout ce qui est service et puis industrie, c'est plus dans les grandes villes que dans
aussi, aussi le marché d'emploi, effectivement.
Donc, j'avais aussi donc à parler donc le. Faut savoir que pour les Restos du Cœur, parce qu'on peut parler des Restos du Cœur aussi.
Bien entendu. Ouais.
Les Restos du Cœur, c'est 950 000 personnes accueillies, 128,5 millions de repas distribués, 37,500 bébés de moins de 18 mois aidés en un an. C'est-à-dire que c'est quand même énorme. Je m'étais même pas aperçu que c'était aussi important que ça.
Mais ce qui est surtout intéressant, enfin ce qui est surtout, c'est que 50% d'après les chiffres sont des nouveaux bénéficiaires des Restos du Cœur. Et c'est un chiffre qui est tout le temps en augmentation. Et donc bon, enfin c'est surprenant ou pas, je sais pas, mais ce qui montre bien qu'il y a un besoin croissant en fait d'aller dans ce type de structure. Ce qui est aussi alors étonnant, c'est qu'en réalité, je crois que seulement 10% des personnes qui bénéficient des services des Restos du Cœur sont des SDF. C'est-à-dire qu'effectivement tous les autres effectivement ont un logement. Bon, je sais pas si c'est étonnant ou pas, mais en tout cas ça montre bien que l'état de la pauvreté en France, hein. Par ailleurs, hein, à peu près je crois que c'est 36% des bénéficiaires entre 32 et 45 ans. Alors pour vous dire, en 32 et 38 ans, donc c'est 18% et 39-45 ans 18%. Les plus de 60 ans ne sont que 12%, ce qui est déjà pas mal, on a envie de dire. Et alors 56% sont effectivement des bénéficiaires, enfin la moitié en fait sont des bénéficiaires de l'aide de l'association, qui bénéficient de l'aide de l'association caritative, sont des demandeurs d'emploi. 7% des personnes aidées ont un emploi, ce qui est bon. Voilà, c'est pour les travailleurs pauvres, mais c'est une proportion qui est en hausse d'année en année. Et par contre, évidemment, un tiers des personnes sont des familles monoparentales, donc c'est-à-dire où le complément, il n'y a pas de complément de ressources en quelque sorte. Hein. On est mieux à deux que tout seul, quoi. Voilà, ça, c'est des proportions qui sont stables depuis des années. Par contre, 40% des personnes vivent dans des HLM. 40% des bénéficiaires vivent dans des HLM. Voilà, ce qui est aussi stable. Encore une fois, on se prépare un hiver joyeux.
Oui. Il faut savoir également que 51% des personnes, c'était une personne sur deux, cette année, bénéficient de l'aide de l'association pour la première fois. Donc effectivement, donc il y a une recrudescence de nouveaux demandeurs.
Mais c'est pas une recrudescence, je crois que c'est une augmentation régulière chaque année.
Oui, c'est ça. Merci.
Alors, on peut espérer qu'il y a des gens qui en sortent aussi, d'une année sur l'autre, heureusement.
Nous espérons.
Mais voilà.
Donc c'est quand même très important. Alors il faut savoir quand même que les efforts du Resto du Cœur, qui lançaient le lundi 30 novembre, ils lancent leur campagne d'hiver. Donc si vous pouvez mettre ne serait-ce que 1 euro ou 2 pour aider l'association, c'est toujours ça. Ça aidera les plus pauvres d'entre nous à au moins manger chaud et puis avoir quelques repas de temps en temps, le fameux panier repas avec l'essentiel du repas à manger, enfin tout ce qui est nutritif, ouais, en fait, pour voilà, c'est quand même on vit quand même dans un drôle de monde quand même, je trouve, enfin bon, bref, on va pas se mettre à pleurer, mais c'est quand même impressionnant.
Oui non, et puis ça fait peur, parce que si faut bien imaginer que les Restos du Cœur, c'est aussi, bon, il y a aussi il y a des structures d'hébergement, mais il y a aussi c'est aussi en plein air, hein, presque en plein air, donc c'est en plein hiver, bah des fois il fait vraiment pas chaud, les gens viennent chercher leur repas à ce moment-là, quoi, hein. Donc faut être sacrément courageux et sacrément dans le besoin pour y aller, pour faire la queue, pour être servi par des bénévoles qui font un travail qui est exceptionnel, quoi. Bon,
très bien. Si on peut écouter une petite chanson, Claude, s'il te plaît, merci, et on prend la parole par la suite.
À m'en plaquer par la vie. La terre, la poussière, c'était l'homme et sa chanson. Quand on est mort, c'est pour de bon.
Une chanson qui tombe à pic, c'est « Et des clous » de Léo Ferré, bien sûr. Hein. C'est mon chanteur préféré, voilà, je vais le dire. Et c'est une très belle chanson. Voilà. Donc on reprend cette émission, c'est Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi d'AC, Agir ensemble contre le chômage. Nous parlons bien sûr du chômage dans cette émission, donc on va en parler tout de suite avec Ludo sur les chiffres du chômage. Les vrais chiffres maintenant, parce que tout à l'heure je m'étais un peu planté. Les vrais chiffres maintenant, donc qu'en est-il aujourd'hui, Ludo?
En fait, j'ai tiré je cherchais les chiffres du chômage en France et j'ai ramassé les chiffres d'Eurostat pour l'Europe. Et donc là, j'ai trouvé un truc exceptionnel, c'est que en octobre, la zone euro comptait 17 240 millions de chômeurs. 17 millions, pardon. Oui, voilà, 17 240 000. Voilà. Et donc, c'était quoi le titre? C'était, selon les chiffres d'Eurostat, le chômage a une nouvelle fois reculé en octobre dans la zone euro. Alors, vous allez me dire, c'est génial. Enfin, là, on voit le bout de la crise. Et là, donc sur les 17 240 000 chômeurs, de combien y a-t-il de moins de chômeurs ce mois-ci sur toute l'Europe?
10 000.
Ah, bravo, tu as lu
le truc avant. Non, j'ai pas lu.
13 000.
Ah bah toi, j'étais pas loin. Hein.
Mais carrément. Bon, et il est vrai qu'il y a 1 300 000 de moins qu'il y a un an. Certes, mais enfin, c'est une décrue qui est quand même lente. Voilà. Et donc, il y a des bons et des mauvais élèves. Alors, bon, on peut toujours se demander comment ça se fait qu'il y a des bons et des mauvais élèves, sachant que c'est l'objectif de diminution de l'emploi devient effectivement un objectif en soi, ce qu'on pourrait comprendre, mais les politiques associées ne suivent pas forcément. Je veux dire, c'est un peu... Je vais avoir un exemple bête, mais parfois, la baisse du chômage, c'est un peu à la trique, comme en Allemagne. Et donc, les bons et les mauvais élèves, ça voudrait dire que, dans certains cas, il faudrait mettre les gens au boulot un peu contre leur gré, mais pour dire qu'ils bossent, on sait pas, c'est l'état de leurs revenus. Bon, ça, c'est un aparté. Mais, par exemple, donc, en titre de mauvais élèves, de combien le chômage est le plus élevé, de nombre de chômeurs est le plus élevé en France ce mois-ci, de chômeurs total, hein, sans activité, sans les chiffres de Pôle emploi?
Bah, tu sais pas.
Je suis pas l'actualité. 40 000, 42 000 exactement.
Non,
donc,
j'ai pas
suivi soit beaucoup plus que les chômeurs en moins en Europe. D'accord. Pour dire que la France est un très mauvais élève, donc ouais. Bon, les stats.
Double zéro alors, voilà.
Mais elle n'est pas le seul, puisque alors pour quelle raison, ça c'est toute la question. La Belgique et la Finlande sont effectivement les trois mauvais élèves. Alors on pourrait gloser sur la forte indemnisation des chômeurs en Belgique. C'est vrai, les chômeurs sont
très bien
indemnisés plus longtemps que
beaucoup mieux.
Voilà. En Finlande, là, j'ai pas de de réponse. Donc voilà, 42 000 chômeurs en plus. Donc ça porte, alors selon les comptes de Pôle emploi, bien sûr, le nombre de chômeurs total à 3 millions, voilà, dans les DOM-TOM, en France métropolitaine. Par contre, 3 millions 85 000, c'est les chiffres qui donnent le vertige en fait. C'est pour ça qu'on a du mal à les dire en comprenant les DOM. Ouais, ouais. Effectivement, alors les chômeurs exerçant une activité réduite, l'augmentation des chômeurs est plus modérée. Il y a eu des augmentations plus modérées, maintenant on en est là. Donc c'est 13 000 en plus en activité réduite. Hein. Mais bon, au total, globalement, c'est 5 400 000 personnes, j'arrondis, 430 000 personnes exactement, qui sont inscrits au Pôle emploi en métropole. Hein, et 540 000. Dans la France entière, y compris les DOM, voilà. Donc il faut remonter à avril 2013 pour retrouver une telle montée du nombre de chômeurs dans la catégorie A. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la nouvelle ministre du Travail, Madame Montgomery, qui entre-temps a dû potasser le code du travail, on imagine. Et donc elle a bien reconnu que c'était pas une bonne, une forte hausse. C'est pas facile hein, d'être ministre du Travail, franchement.
C'est quand même très difficile.
Ouais. On colle vraiment les gens qui veulent faire une carrière. Voilà. Mais heureusement, le gouvernement ne perd pas espoir et donc il table sur une baisse du chômage à partir de 2016, soit un an avant les élections. Rien n'est perdu, quoi. Voilà. Mais et bien sûr, ces chiffres doivent être interprétés avec prudence, car blablabla. Voilà, j'ai envie de dire. Ces derniers mois connaissent de fortes variations. Donc, on est toujours sur une stabilisation de l'augmentation pour 2016, une stabilisation du nombre de chômeurs de fin d'année. Bref. Et on espère que la baisse s'enclenchera en 2016. Voilà. Alors, dernière information qui n'en est pas une concernant le chômage des jeunes dans la zone euro. 3 140 000 de moins de 25 ans étaient concernés en octobre, évidemment avec des taux records en Grèce, sans surprise, 47% quand même hein, en Grèce, c'est énorme. Donc ça fait un taux global en Europe de 22% de notre jeunesse qui est au chômage. Donc c'est le double de la population active passé les 25 ans. Donc sans surprise, hein, la Grèce 47%, l'Espagne 47% et l'Italie 40%. Voilà, c'est pour dire que c'est un sacré voilà. Bon, voilà donc commentaire.
Oui non, c'est vrai, mais pour aller dans le même sens, enfin dans le même sens. C'est deux mots quand même sur le Pôle emploi quand même. C'est important de parler des Pôle emploi aussi. Pôle emploi va mettre beaucoup d'argent pour acheter des outils qui vont pouvoir contrôler les chômeurs qui apparemment fraudent. Et apparemment, j'ai lu un truc là-dessus, je ne me souviens plus de quel journal, qui disait qu'il y avait 1 million de fraudeurs en France.
Oh, pas 1 million.
1 million. Ils fraudent pour l'équivalent de 1 million d'euros.
Ah oui.
Pardon, excuse-moi, j'étais mal con. Voilà. Alors que quand même l'État verse 30 milliards par an à Pôle Emploi pour payer les chômeurs. Donc,
oui, tout à fait. Oui. Voilà. Enfin,
donc c'est une goutte d'eau dans.
Tout à fait. Oui.
Une goutte d'eau dans l'océan, voilà. Et il faut savoir également que les Pôle Emploi, comme dans les villes de Paris, il y en avait il y a 20 ans, il y en avait 4 dans les 18e, il y en avait plusieurs dans les grands arrondissements du 19e, 20e, il y en avait 3-4 aussi, et qu'il n'y en a plus que 2 aujourd'hui. Donc tout ce qui est service public de proximité, on se demande pourquoi ils les ont vendus. Alors dans les 18e, il y en a un, c'est devenu une salle de sport, par exemple.
C'est ça, ils ont...
Et un deuxième, c'est devenu un commerce.
Ouais, c'est pour faire des économies.
Qu'est-ce que ce délire, quoi ? Je veux dire,
oui,
bon,
mais c'est depuis la fusion. C'est-à-dire que la fusion... Non, mais t'as raison. C'est-à-dire que la fusion a abouti aussi à une fusion des voilà. Et donc, il y a une disparition des... Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a on repousse en fait les chômeurs loin finalement des conseillers. C'est un peu l'idée. Je m'explique. Hein, c'est qu'avec la numérisation vantée par la nouvelle ministre du Travail, finalement, bon bah voilà, l'actualisation elle se fait en ligne. La convocation se fait en ligne, etc. Or c'est source évidemment de radiation plus importante. Parce que bah tout le monde connaît Internet, c'est pas d'une fiabilité extraordinaire.
Absolument.
Et les chômeurs n'ont pas tous Internet. Mais d'un autre côté, il y a aussi une déshumanisation hein, donc du lien pour avoir le chômeur avec Pôle Emploi. Et puis il y a une mise à distance de l'administration de Pôle Emploi par rapport aux chômeurs. Donc je me souviens qu'il y a justement au début de l'existence d'Assez, le mouvement de chômeurs occupait des UNEDIC. Aujourd'hui, on sait que ça sert presque plus à rien parce que finalement, les pauvres les pauvres conseillers, c'est pas vraiment les responsables, et donc il faudrait que les chômeurs aillent voir ailleurs, mais évidemment là, c'est-à-dire un peu plus haut, sauf que là évidemment il y a des CRS, c'est que c'est un peu plus compliqué. Et voilà, donc c'est un traitement administratif du chômage.
Absolument. Merci Ludo pour ces précisions. Pour ce qui concerne la formation professionnelle, je crois qu'il y a effectivement maintenant ça, c'est pour, dans certaines régions, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau
on a mis la main sur un texte qui est intéressant parce que la formation professionnelle est aussi du conseil régional, celle qui alloue les subventions. Et donc, ça ne vous a pas échappé, c'est les élections dimanche.
Absolument.
Voilà. Et donc, on a eu un texte alors de quelqu'un qui se présente, enfin qui est un peu à part hein, dans l'échiquier politique, puisqu'il n'est pas vraiment socialiste, il est il est secrétaire général de il est sur une liste rassemblement, alors c'est dans le Languedoc-Roussillon et les Midi-Pyrénées, puisque les régions ont fusionné aussi. Donc c'est Nouveau Monde en commun, hein, voilà, et secrétaire général, association pour la gauche républicaine et sociale, d'accord. Bon, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais par contre, son point de vue était intéressant parce que lui, il plaide en fait pour la fin des appels d'offres qui sont faits par le conseil régional. Alors le problème des appels d'offres publics, c'est que finalement, on a du mal à choisir les prestataires, et en plus, ça tombe au privé, hein, parce que ça tire vers le bas. On recherche une espèce de moins-disant social, comme on dit. Et en plus, il y a une marchandisation de la formation professionnelle. Et on aboutit à des formations dont on peut dire que, je sais pas si elles règlent les problèmes des chômeurs. C'est tout un chapitre, hein, sur les formations courtes et longues. Et lui, pour une attribution, donc, il veut la fin, hein, de l'attribution des lots communs pour passer au système du mandatement. Ce qui permet donc à Pôle emploi, à l'État et aux conseils régionaux de passer des commandes directes aux organismes publics de formation. Donc il est pour un retour à une vraie formation par le public et un vrai encadrement des chômeurs. Et donc moi je trouvais que c'était relativement intéressant, et il rappelle aussi d'ailleurs que la formation à destination des salariés doit être à la charge et à l'initiative de l'employeur. Voilà, ce qui n'est pas toujours quelque chose qui va de soi quand on est salarié. Les employeurs ont tendance à embaucher des gens qui sont déjà qualifiés. Et donc je trouvais ce point de vue intéressant puisque c'est vrai que on sort de 10 ans de marchandisation de la formation professionnelle, notamment par les ANPE, qui coûte plus cher pour une efficacité par rapport au budget qui est pas évidente, quoi. Voilà.
Merci Ludo pour avoir fait cette émission avec moi. Cette émission se termine. Je rappelle juste que demain à 14h30. Au métro Jaurès ou Stalingrad, au rond-point, vous avez un rassemblement des chômeurs et précaires qui vont donc marcher jusqu'à Place Clichy. Et la semaine prochaine, évidemment, c'est de l'anti-sommet COP21 toute la semaine. Restez sur notre onde, surtout sur Fréquence Paris Pluriel. Et puis surtout, allez voter dimanche. Ou alors, si vous ne votez pas, allez à la pêche aux infos. Hein, donc voilà. Merci à tous. Je vous embrasse. J'embrasse les filles et une poignée de mon garçon. Ciao.
Bonne soirée. Started right.